Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Jeanne de TF1 LCI. Bonjour Adrien. Cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez interpeller notre invité, lui poser toutes vos questions. Hashtag le grand jury. Et elles seront relayées en fin d'émission. Alors Valérie Pécresse, dans quelques mois, en juin, sont prévues les élections régionales. Et sauf énorme surprise, vous serez candidate à votre propre succession. Encore faut-il que ces élections se tiennent, tant la situation sanitaire est imprévisible. Faut-il les organiser quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte? On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Et puis dans à peine 15 mois, maintenant, ce sera la présidentielle. Et là, espérons-le, la pandémie sera derrière nous. Viendra alors notamment la question de la dette, notamment. Faut-il ou non la rembourser? Le débat fait déjà rage. Et si vous êtes candidate à l'Élysée, votre position d'aujourd'hui vous sera alors forcément rappelée. Pour l'instant, les sondages pronostiquent un duel identique à 2017. Mais rien n'est écrit, avez-vous affirmé récemment à vos soutiens dans un message. Est-ce à dire que vous pensez de plus en plus à 2022? Chacun se fera son idée à l'issue de cette émission. Mais dans les médias, et c'est la perspective d'un nouveau confinement qui inquiète, pour ne pas dire angoisse, les Français. Première question, Adrien Gindre.
Oui, puisque le plateau que l'on connaissait depuis plusieurs semaines est progressivement en train de se transformer en plateau ascendant, voire en montée réelle, exponentielle même par endroit. Ce matin, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, se veut tout de même optimiste et nous explique qu'on peut encore éviter le confinement national. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez le sentiment que ce trou de souris existe bel et bien ou qu'on est simplement aujourd'hui en train de tenter de le retarder?
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a 20 départements qui sont en grande tension, où on voit l'épidémie se répandre. On voit la reprise de l'épidémie et on sait qu'elle s'accélérera vraisemblablement avec la reprise des écoles.
Dès
à partir
demain.
De lundi. Mmh. Voilà. Donc nous sommes dans une période qui va être une période tendue pendant les semaines qui viennent, où on voit qu'il y a finalement une course de vitesse entre les variants et la vaccination. Mais la vaccination, et ça c'est une source d'optimisme, est en train petit à petit de protéger les plus fragiles d'entre nous. On le voit dans les EHPAD, où aujourd'hui nous avons de moins en moins de clusters.
Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, cette hypothèse d'un confinement national, il faut toujours considérer que c'est une hypothèse valable? Est-ce que c'est un outil que vous souhaiteriez voir utiliser?
Depuis le début, je dis qu'il faut tout faire pour éviter un nouveau reconfinement du type de celui que nous avons vécu au printemps dernier, un confinement dur avec la fermeture des écoles, la fermeture des commerces, la fermeture des entreprises. Donc oui, il faut tout faire pour éviter ce reconfinement. C'est pour cela que j'approuve la stratégie du gouvernement qui consiste à essayer de tout faire pour l'éviter. Maintenant, on le voit bien, il est vraisemblable que sur les 20 départements qui sont aujourd'hui les plus à risque, dont les 8 de l'Île-de-France, il va falloir prendre des mesures de restriction supplémentaires.
Sur ces départements, justement, Guillaume Roquette.
Oui, est-ce que c'est département par département qu'il faut agir et prendre des mesures complémentaires ou est-ce que c'est toute l'Île-de-France? Parce que les gens bougent beaucoup d'un département à l'autre, surtout dans votre région.
Je crois, Guillaume Roquette, que vous avez la réponse à votre question. Bien évidemment, il faut prendre des mesures qui soient harmonisées sur l'ensemble de la région Île-de-France. La région Île-de-France, c'est une région, j'allais dire, où des millions de Franciliens tous les jours se déplacent d'un département à l'autre.
C'est 12 millions de personnes, la région.
C'est 12 millions de personnes et vous avez à peu près 1 million de personnes qui sortent de Paris et qui y rentrent tous les jours. Et 500 000 personnes qui se transfèrent d'un département à l'autre. Donc vous ne pouvez pas imaginer prendre des mesures qui ne seraient pas coordonnées, harmonisées au niveau même de la région Île-de-France.
Prendre des mesures, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire le confinement le week-end comme on l'a vu dans le Dunkerquois ou le littoral des Alpes-Maritimes ou vous pensez à autre chose?
D'abord, ce qu'il faut dire, moi j'ai trois demandes. J'ai trois demandes au gouvernement avant qu'on parle de restrictions supplémentaires. Trois demandes, une qui est au gouvernement et aux entreprises, c'est qu'on revienne au maximum de télétravail. Aujourd'hui, vous le savez, nous ne sommes plus qu'à 50% de télétravail sur les postes qui peuvent être télétravaillés, évidemment. Donc il faut que les entreprises refassent un effort, reviennent au maximum de télétravail dans les semaines qui viennent.
Ça doit être coercitif. Valérie Pécresse, à chaque fois, on dit il faut. Est-ce que les entreprises doivent être sanctionnées dorénavant si elles ne le font pas, et plus lourdement ?
Mais d'une manière générale, les entreprises ont tout intérêt, Benjamin Sportouche, à respecter cette demande, parce que le pire qui puisse leur arriver, c'est un confinement, c'est un arrêt des chantiers.
Certaines ne le font pas. Elles veulent pas anticiper le pire, et donc
aujourd'hui, il faut que le gouvernement prenne des mesures et demande à ces entreprises de faire respecter au maximum le télétravail, parce que ce sera la mesure la plus efficace en semaine pour éviter la propagation du virus. C'est ma première demande. Ma deuxième demande, c'est qu'on change les critères de la vaccination. Aujourd'hui, vous le savez, les vaccins sont distribués proportionnellement au nombre des habitants. Je crois que dans ces 3 ou 4 semaines, qui sont des semaines cruciales pour éviter que l'épidémie ne reflambe à nouveau dans certaines régions, il faut augmenter le nombre de vaccinations en fonction de la population hospitalisée. Alors, et ça, c'est très important. C'est réclamé notamment dans un certain nombre de départements qui sont les plus touchés par l'épidémie. C'est ma deuxième demande. Attendez, je voudrais faire la troisième, parce qu'on va rouvrir les écoles. On va rouvrir les écoles. Et ma troisième demande, c'est qu'on aille tester massivement les élèves dans les écoles, parce que ça suscite des inquiétudes des parents, ça suscite des inquiétudes des enseignants, et moi je souhaite que les écoles restent ouvertes, parce que ce serait dramatique pour les jeunes de ne pas avoir
cours. Mais le gouvernement dit qu'on va tester massivement à partir de demain, vous nous dites que c'est pas ce qui va se faire ?
Bah écoutez, il l'avait déjà promis il y a un mois, ça ne s'est pas fait, moi j'aurais aimé, et la région a proposé à l'Agence Régionale de Santé d'aider à partir de lundi, pour qu'on déploie beaucoup plus massivement les tests. Alors, le gouvernement a annoncé 40 000 tests salivaires. Il faut aussi faire des tests antigéniques, des tests minutes. Il ne faut se priver d'aucun outil qui nous permette d'éviter des clusters, d'éviter le rebond épidémique et d'éviter le confinement.
On va rester sur ces tests salivaires, pardon. Qui doit les faire, ces tests ? Est-ce que ce sont les infirmières scolaires ? Est-ce que vous leur demandez de les faire ? Et est-ce que vous dites, combien vous en voulez précisément ?
Il y a des lycées, des collèges dans lesquels les infirmières scolaires sont volontaires. Il y a d'autres établissements dans lesquels elles estiment qu'elles sont déjà submergées par d'autres tâches. Nous, à la région, nous sommes prêts à mettre à la disposition de l'Agence régionale de santé des préleveurs pour les tests nasopharyngés si on fait des tests antigéniques. Nous les avons formés avec la Croix-Rouge, donc on est prêt à mettre à la disposition des préleveurs spécialement dédiés pour ces tests dans les écoles. Et de la même façon, nous sommes prêts à mettre aussi à la disposition de l'Agence régionale de santé, je leur ai dit cette semaine, des agents de la région qui sont dans les lycées pour faire les tests salivaires.
Il y a une commune de votre région et de votre département, Chambourcy, qui déjà va devoir sa rentrée repoussée, précisément parce qu'on a détecté sur place des variants, donc pas de rouverture d'école demain. Est-ce que c'est l'horizon que vous voyez pour les prochains jours, les prochaines semaines ? Les tests, ils vont nous permettre de faire ça, c'est-à-dire de dire, dans des villes entières, on ferme des écoles, on repousse la rentrée, on fait des sortes de mini-vacances pendant une semaine, 10 jours ?
Tout à fait. Si on veut éviter un reconfinement massif, il faut régionaliser les réponses, on l'a dit, mais il faut aussi les territorialiser, les localiser. Et ce qui s'est passé à Chambourcy, j'ai eu le maire de Chambourcy au téléphone, est exemplaire. Des cas de variants sud-africains sont détectés dans une école, d'ailleurs un variant qui se propage visiblement très vite, et on décide de protéger les enfants, de protéger la ville. J'ajoute même que si on voulait aller jusqu'au bout du processus, il faudrait aussi que les Camboriciens fassent très attention en allant au lycée à Saint-Germain-en-Laye pour ne pas amener le virus avec
eux. Et confiner la ville, par exemple, ça pourrait... Vous disiez tout à l'heure qu'il faut prendre à l'échelle de la région, mais quand c'est qu'une seule commune qui est concernée par un variant...
Non, mais là, le confinement de la ville ne se justifie pas. Ce qui se justifie, c'est qu'en revanche, les frères et sœurs et les parents des jeunes enfants qui étaient scolarisés dans l'école, eux, prennent les précautions et les mesures qui s'imposent. Je pense qu'il faut qu'on essaye toujours de prendre des mesures proportionnées et qu'on essaye au maximum d'éviter, les conséquences économiques, sociales, psychologiques d'un reconfinement dur.
Alors, on va revenir sur vos premières propositions. D'abord, la première proposition, c'est
vous demandez davantage de télétravail. L'objectif, c'est évidemment que les gens se déplacent moins, en particulier dans les transports en commun, dont vous avez la tutelle, l'organisation en tant que région. Est-ce qu'aujourd'hui, le l'importance des gens qui se déplacent dans les RER, dans les transports en commun d'Île-de-France, ça crée un risque objectif.
Aujourd'hui, il n'y a plus que 50% des voyageurs habituels dans les transports en commun. Donc aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministre des Transports, nous sommes à des niveaux de sécurisation des transports avec toutes les nettoyages, les nébulisations, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, le port obligatoire du masque, bien évidemment. On est dans des conditions qui sont parmi les meilleures en termes de sécurité au monde.
Donc vous dites que c'est pas dangereux.
C'est pas la peur des transports qui me fait demander le télétravail massif. C'est le risque de contamination au sein du lieu de travail, et notamment au moment du repas, au moment de la cantine, parce qu'on sait bien que c'est pendant les repas, c'est d'ailleurs pour ça que les restaurants sont malheureusement encore fermés, c'est parce que c'est souvent à ce moment-là, dans ces moments de convivialité, qu'on se contamine.
Mais donc vous êtes contre
le télétravail permet d'éviter ces contacts entre les salariés.
Sur les restaurants, il y a 42 parlementaires de tous horizons politiques qui proposent justement de rouvrir les restaurants le midi. Précisément pour la raison que vous venez d'indiquer, ils disent de toute façon les salariés le midi ils doivent manger. Il y a des cantines d'entreprise qui sont ouvertes. On pourrait aussi permettre à certains qui n'ont pas de cantine ou qui se répartiraient davantage de cette manière d'aller au restaurant le midi pour faire leur coupure déjeuner.
Ce qui est certain, c'est que, en tout cas dans les 20 départements qui aujourd'hui sont à risque et qu'on doit protéger contre un reconfinement, cette mesure ne me paraît pas souhaitable. Qu'elle puisse être prise et envisagée dans d'autres départements qui, eux, sont quasiment épargnés par la pandémie. Pourquoi pas ? Moi, depuis le début, je plaide, et je plaide avec force, pour qu'on régionalise nos réponses. Parce que ça m'est toujours paru très...
Dans le durcissement et l'allègement.
Dans le durcissement et aussi dans l'allègement. Ça m'est toujours paru, j'allais dire, finalement... assez contre-productif d'avoir, l'année dernière, confiné toute la France pour un virus qui a touché finalement l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la région Rhône-Alpes, la région Sud et la région Grand Est.
On ne connaissait pas le virus, on n'avait pas les masques, Valérie Pécresse.
Absolument, non, mais je n'en fais pas grief au gouvernement parce qu'on apprend en gérant cette crise qui est quand même totalement imprévisible. Là, on le voit bien, l'impact des variants, personne n'arrive aujourd'hui à vraiment le prévoir et il est visiblement très différent d'une région
mais
à l'autre.
Que je vous comprenne bien, Valérie Pécresse, si le gouvernement vous dit demain, je crois que vous avez une réunion avec le préfet et l'agence régionale de santé.
Avec les préfets et l'agence régionale de la santé.
Si le gouvernement ou le préfet en l'occurrence vous dit bon, on va certainement devoir confiner la région Île-de-France le week-end prochain. Voilà, qu'on ferme la région. Qu'est-ce que vous allez dire ? Est-ce que vous allez dire bon, s'il le faut, je suis d'accord ou vous allez y mettre votre veto ?
Moi, je crois qu'il faut tout faire pour éviter ce confinement. Donc, ce que je vais demander au préfet de police et au préfet de région, au directeur de l'agence régionale de santé, c'est de me dire. De me justifier les mesures de restriction qu'ils vont me proposer. Ils vont me proposer des mesures de restriction supplémentaires, c'est une évidence. Ces mesures de restriction, elles doivent viser trois objectifs. Elles doivent viser d'abord un premier objectif qui est d'éviter la saturation des capacités hospitalières. Mais aujourd'hui, on n'est pas à saturation.
Oui, mais ça va vite augmenter. L'Institut Pasteur dit qu'on va directement dans le mur. Le 20 mars, ils disent qu'on aura 50 contaminations par jour, 50 000 contaminations par jour. Donc, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut un confinement préventif.
Il est évident qu'il va falloir des mesures de restriction supplémentaires pour éviter la saturation hospitalière. Mais il faut aussi que ces mesures prennent en compte le risque économique et psychologique qui est lié à toutes ces mesures de reconfinement.
Donc,
si le gouvernement me demande et me justifie des mesures de restriction dures, je ne m'y opposerai bien évidemment pas. Mais j'attends de lui des justifications.
Dans les mesures intermédiaires, il y a Toulouse, par exemple, qui prend à partir d'aujourd'hui de nouvelles mesures. Il y a des lieux qui sont fermés, les berges. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse la même chose dans votre région, qu'à Paris, on ferme les quais de Seine, que dans d'autres parcs ou jardins d'Île-de-France, on ait des restrictions ?
C'est une réflexion qui est en cours aujourd'hui avec tous les préfets de département. On essaye d'identifier les lieux qui sont des lieux à risque, dans lesquels pourraient se produire des rassemblements qui pourraient conduire à la contamination. On essaye de faire vraiment du sur-mesure et on essaye d'aller le moins possible contre les libertés et aussi contre la vie économique
de
la région.
C'est en réflexion, ça veut dire qu'il y aura des annonces en ce sens-là
Il y aura certainement des mesures de restriction qui seront annoncées, je vous l'ai dit, vous l'avez compris. Je rencontrerai les deux préfets par Internet et le directeur de l'ARS demain. Ils me proposeront pardon, le directeur de l'Agence régionale de santé demain, ils me proposeront des mesures de restriction qui leur paraissent les plus adaptées au vu de la situation épidémiologique de la région. Et là encore, si elles sont justifiées, je n'y opposerai pas. Mais mes trois demandes préalables
on
demeurent.
On va y revenir, juste pardon, avant, Paris était...
Télétravail, vaccination et
on
test.
Va y revenir, on va revenir notamment sur la vaccination. Mais sur Paris, vous avez vu qu'il y avait une proposition de l'adjoint, du premier adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a fait polémique, c'est-à-dire confiner Paris 3 semaines. Est-ce que cette hypothèse vous paraît totalement farfelue ou est-ce que ça peut être sur la table?
Ce qui me paraît tout à fait invraisemblable, c'est d'imaginer qu'on puisse confiner Paris sans confiner l'ensemble de la région. Parce que la vérité, c'est que des millions de personnes, je l'ai dit, viennent travailler à Paris tous les jours, ou viennent y faire leurs courses, ou viennent s'y faire soigner. Donc on ne peut pas imaginer de mesures de restriction qui ne soient pas à l'échelle régionale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas faire de fausses promesses. Il suffisait de reconfiner tout le monde 3 semaines pour pouvoir reprendre une vie normale, je pense que le gouvernement le proposerait sans doute.
Il y a beaucoup de gens qui proposent ça. Hein. Vous savez, c'est la stratégie dite du zéro Covid en disant il faut un reconfinement en quelque sorte préventif, même si le danger n'est pas immédiat, notamment en termes d'occupation des lits de réanimation, parce que comme ça, on va bloquer la progression du virus et on pourra reprendre une vie normale après.
Visiblement, le gouvernement ne croit pas à cette stratégie. S'il y croyait, il la proposerait.
Et vous ?
Moi, je n'ai pas de raison de mettre en doute les compétences épidémiologiques du gouvernement. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, je ne me prends pas pour un médecin.
Vous disiez tout à l'heure, si les mesures sont justifiées, vous êtes prête à les accepter. Si on vous dit, par exemple, cette semaine, va falloir limiter, voire interdire les déplacements entre régions, est-ce que là aussi, vous seriez d'accord pour se dire que l'Île-de-France se retrouve d'une certaine manière coupée du reste du pays ?
C'est une des mesures qui pourrait être prise et je la comprendrais. Parce que le problème que nous avons, c'est que s'il y a des mesures coercitives qui sont prises en Île-de-France, mettons par exemple un confinement le week-end, rien ne serait plus injuste que de voir des milliers de franciliens partir à 5 heures du soir le vendredi dans leur maison de campagne et donc ne pas être victime, ne pas être touché par le confinement et en revanche venir répandre peut-être le virus dans d'autres régions. Donc il faudra qu'on fasse preuve d'un esprit de responsabilité nous devons lutter tous ensemble contre le virus.
Ce sera pas facile à accepter pour les franciliens qui, pour beaucoup, en ont vraiment ras-le-bol.
Absolument. Il y a une immense lassitude. C'est pour ça que je le dis, ça n'est que quelques semaines. On est en train de voir le bout du tunnel. Le bout du tunnel, c'est la vaccination qui progresse, la vaccination qui se répand maintenant chez les médecins généralistes. Et j'invite d'ailleurs tous les Français qui nous écoutent à faire confiance à cette vaccination et à aller, s'ils sont à risque, se faire vacciner chez leur généraliste. Parce qu'aujourd'hui, il y a des doutes sur ce vaccin AstraZeneca. Mais ces doutes ne me paraissent pas justifiés au regard de ce que nous disent les autorités sanitaires.
Si vous parlez de la vaccination et vous réclamiez davantage de doses, faut-il en prendre des doses de vaccin aux départements qui sont les moins concernés par la pandémie actuellement, par exemple dans l'ouest de la France? Faut-il faire ce transfert-là? C'est ce que demandait Stéphane Troussel, par exemple le président du département de la Seine-Saint-Denis, au micro de RTL vendredi matin.
Moi, je ne prends pas des doses qui sont déjà arrivées dans un département. Ce que je dis, c'est que dans les futures affectations de vaccins, qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent, il faut donner une priorité. Enfin, ça me paraît être du bon sens. Il faut donner une priorité aux zones dans lesquelles le nombre d'hospitalisations est le plus élevé. Enfin, l'objectif de la vaccination, c'est quand même de sauver des vies. Donc, il faut sauver des vies. Et il faut les sauver en fléchant les vaccins, d'abord, là où la pandémie fait rage.
Est-ce que la solidarité vaccinale doit, pour le coup, avec les autres pays européens, se faire ou pas? C'est-à-dire que la France va fournir, par exemple, 100 000 doses du vaccin anti-Covid Pfizer à la République tchèque d'ici la mi-mars. Est-ce que c'est une mesure que vous trouvez légitime? On voit certains Français s'en émouvoir.
Je sais, on m'avait déjà fait le même reproche quand j'avais distribué des masques, notamment à nos Outre-mer, qui n'en disposaient pas. Et le président de la région Guadeloupe, le président de la région Martinique, de la collectivité territoriale de Martinique, pardon, avait souhaité avoir des masques. Et nous en avions en stock, donc nous leur avions fourni. Donc je crois qu'il y a aussi, dans cette pandémie, des mesures de solidarité qui doivent être prises à l'égard de nos compatriotes ultramarins, par exemple sur les masques, ou à l'égard de nos compatriotes européens, enfin de nos partenaires européens. Parce que quand on a besoin qu'ils accueillent dans leurs hôpitaux nos malades, eh bien ils le font aussi. Donc la solidarité, elle est à double sens. À certains moments, c'est nous qui sommes solidaires d'eux, à certains moments, c'est eux qui sont solidaires de nous.
Vous dites que vous envisagez un confinement, s'il est demandé par l'État, de la région Île-de-France. Est-ce qu'il y a des mesures intermédiaires qui pourraient être prises avant d'en arriver là? Par exemple, davantage de contrôle dans les gares ou dans les aéroports d'Île-de-France?
Alors, je me suis peut-être mal fait comprendre. Je souhaite qu'on fasse tout pour éviter ce reconfinement de l'Île-de-France. Mais je sais qu'il va y avoir des nouvelles mesures de restriction à prendre. Et vous avez tout à fait raison de dire que les contrôles aux aéroports et dans les gares d'Île-de-France doivent être renforcés. Nous sommes une région monde. Nous sommes une région frontière, frontalière, avec nos aéroports, avec nos grandes gares internationales. Beaucoup de personnes viennent de l'étranger.
Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de contrôle?
Et pendant des semaines et des mois, j'ai réclamé qu'on puisse avoir des tests PCR aux frontières, aux frontières françaises, parce que nos voisins européens le faisaient et nous ne l'imposions pas. Aujourd'hui, nous l'avons imposé, nous avons des tests qui sont imposés. Maintenant, il faut effectivement que les vérifications aient lieu. D'ailleurs, ça pose la question à plus long terme de savoir s'il ne faudra pas avoir une forme de carnet sanitaire. Quand on se déplacera d'un pays à l'autre, un carnet sanitaire qui dira à la fois nos tests, l'état de nos tests, et le jour où la vaccination sera répandue, l'état de notre
mais vous
vaccination.
Dites, ça pose la question, quelle réponse vous y apportez? Il faut aller vers ce passeport sanitaire, vaccinal, selon les modalités de tests ou de vaccins?
Alors moi, je ne l'appelle pas passeport, parce que je pense que c'est plus... Pour moi, ça relève plus du carnet de santé, parce que c'est un document qu'on pourra vous demander, y compris peut-être demain pour aller dans un lieu culturel, demain pour faire telle ou telle activité.
Ce serait une bonne idée de votre point de vue.
Je crois qu'il faut qu'on aille vers cela. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer. L'Île-de-France est... la région qui est la plus touchée par la crise économique de la Covid. Pourquoi? Parce que nous sommes une région très ouverte sur le monde. Nous sommes une région touristique, nous sommes une région qui accueille le monde entier. On a supprimé, on a arrêté 700 salons et événements en Île-de-France avec le Covid. Donc c'est des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans l'événementiel, dans le tourisme, dans l'aéroportuaire, l'aéronautique, qui sont aujourd'hui sans travail. Donc le sujet, c'est comment on fait revenir les touristes. 33 millions de touristes en moins cette année. 15 milliards de recettes en moins cette année pour l'Île-de-France. Comment on les fait revenir? Je pense avec ces carnets sanitaires qui permettront de contrôler que les personnes que nous allons à nouveau accueillir en Île-de-France, eh bien, sont bien vaccinées, sont bien testées négatives.
Mais quels critères, justement? Il faudrait être vacciné de votre point de vue ou il faudrait avoir un test négatif? Parce que c'est pas la même chose et c'est pas la même temporalité, le même fonctionnement.
Aujourd'hui, on voit bien que tant que les vaccins ne sont pas répandus, il serait extrêmement injuste d'en faire un critère pour quelque activité que ce soit. Mais à moyen terme, et je pense notamment l'été prochain, si on veut voir revenir les touristes, alors il faudra aussi qu'on protège les habitants de l'Île-de-France, les habitants les Français. Et donc il faudra que l'Europe décide de comment et selon quelles modalités on franchira ses frontières.
Avec un passeport vaccinal, comme la Grèce l'a demandé. D'ici là, eh bien, il y a le quotidien des Français. Et beaucoup se disent, quand ils entendent le gouvernement vouloir davantage de contrôles policiers, ça suffit, disent-ils. Il y a une forme de saturation, d'exaspération. Est-ce que vous vous dites, ben oui, c'est le jeu, il faut aussi qu'il y ait des sanctions? Vous vous dites peut-être qu'il faut moins répandre ces sanctions, moins répandre de forces de l'ordre aujourd'hui et laisser un peu les Français tranquilles. Qu'est-ce que vous dites là-dessus?
Moi, j'en appelle toujours à l'esprit de responsabilité des Français. Bien évidemment, on préférerait tous qu'il y ait beaucoup moins de contrôles policiers. Les contrôles policiers sont malheureusement nécessaires quand les gens abusent. Vous le savez bien, il y a des fêtes sauvages, il y a des restaurants clandestins. Donc on ne peut pas laisser impunément bafouer la loi. Ça n'est pas possible.
Il y a insuffisamment de contrôles, même, vous diriez?
Non, je ne dis pas ça. Je dis que les contrôles sont nécessaires quand, malheureusement, il y a des infractions. Je sais que c'est dur. Je sais qu'il y a encore 3-4 semaines qui vont être encore dures. Je comprends la lassitude et l'exaspération de tous. Mais c'est le prix à payer pour ne pas être reconfiné.
Mais ce que j'ai pas compris dans vos propositions, pardon, c'est est-ce que, par exemple, si vous parlez de propositions plus drastiques, on va devoir y être amené, est-ce que ça veut dire élargir le couvre-feu, le mettre plus tôt? Est-ce que ça, c'est une option, commencer le couvre-feu à 17h? Est-ce que ça fait partie des alternatives possibles à un confinement le week-end?
Moi, je n'en vois pas vraiment l'efficacité en termes épidémiologiques, parce que l'intérêt du couvre-feu à 18h, c'est d'éviter, et on le sait bien, le principe de la sociabilité. mobilisation en dehors du travail. 18h ou 17h, c'est la même chose. En Ile-de-France, on rentre chez soi quand on a le couvre-feu à 18h. Je ne vois pas bien l'efficacité de renforcer le couvre-feu à 17h. Il ne faut pas qu'on prenne des mesures privatives de liberté qui ne sont pas efficaces. Il faut qu'on prenne des mesures de restriction qui sont des mesures strictement proportionnées et qui ont une efficacité. D'ailleurs, j'en profite pour demander qu'il y ait un retour d'expérience sur ce qui s'est fait à Nice. Ou ce qui se fait à Dunkerque. C'est très important pour nous de savoir, nous, autorités politiques, de savoir si les mesures de restriction qui sont prises ont ou pas une efficacité.
Mais on les aura trop tardivement. Puisque la décision,
on les aura.
On va dans, pas les avoir dans... cette semaine, alors qu'on s'interroge.
Oui, mais on les aura. Il faut les avoir au fil de l'eau. Et si on s'aperçoit qu'une mesure n'est pas efficace, il faut qu'elle soit réversible. Il faut qu'elle soit réversible, parce qu'on ne peut pas priver les Français d'un certain nombre de leurs libertés si ça n'est pas efficace.
Globalement, on peut dire que vous êtes d'accord avec la politique suivie par le gouvernement, par Emmanuel Macron, par Jean Castex. À leur place, vous feriez la même chose, la même politique, les mêmes décisions?
Ce que j'approuve vraiment, c'est cette volonté d'essayer d'éviter à tout prix un nouveau reconfinement dur. Parce que je pense que l'économie et le social sont des dimensions de la crise Covid qui sont extrêmement fortes. Alors, c'est vrai que l'Île-de-France est la plus touchée de toutes les régions, qu'on a une augmentation de 15% du chômage, quand la moyenne nationale, c'est de 9%. C'est vrai que nous avons une montée de la précarité, une montée de la pauvreté. Et donc, toutes ces considérations-là me forcent à dire que... le gouvernement a raison de mettre en avant ces considérations économiques et sociales.
Vous imaginez les soignants qui nous écoutent aujourd'hui, les médecins, qui savent que bien leurs services de réanimation sont complets, qui sont obligés de déprogrammer des opérations, qui sont inquiets pour les pathologies qu'ils ne peuvent pas soigner actuellement. Quand ils vous entendent, ils se disent « l'économique prend le pas sur le sanitaire et on sacrifie des vies ».
C'est absolument pas ce que j'ai dit, Monsieur Sportouche. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait tout faire et que les mesures de restriction que nous allions prendre étaient justifiées par l'évitement nécessaire de la saturation de nos capacités hospitalières. Et la région, de ce point de vue, a été exemplaire, pionnière, puisque vous le savez peut-être, mais nous avons financé, nous sommes en train de financer 500 lits de réanimation supplémentaires. 500 lits de réanimation supplémentaires à l'hôpital en Ile-de-France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous... finançons l'équipement de ces lits, mais nous finançons aussi la formation des infirmiers, financement des infirmiers pour permettre justement de détendre ces capacités de réanimation.
Mais où sont-ils, ces 500 lits ?
Eh bien là, d'ores et déjà, 120 lits sont en train d'être installés dans 13 hôpitaux, hors assistance publique, hôpitaux de Paris, c'est-à-dire plutôt des hôpitaux de banlieue, et nous allons continuer, et nous avons encore, nous avons des dizaines de lits de demande dans tous les hôpitaux franciliens. Donc on est en train d'étendre ces capacités de réanimation pour justement venir au soutien des soignants. Nous avons investi dans le plan de relance de l'Île-de-France 1 milliard d'euros sur l'hôpital en Ile-de-France, et d'ailleurs, dedans, il y a une très belle opération de remodernisation, amélioration de tous les espaces de repos pour les soignants que nous menons avec la fondation d'Anne Roumanoff. Nous sommes en train de former 250 infirmières supplémentaires globalement depuis septembre.
Globalement sur l'hôpital, vous êtes moins alarmiste que Martin Hirsch, le patron de l'assistance publique Hôpitaux de Paris.
Non, j'entends toutes les alarmes de l'hôpital et je l'ai dit...
Mais vous dites qu'il n'y a pas de saturation.
J'ai dit qu'il faut tout faire pour éviter la saturation. Mmh. Aujourd'hui, on est face à une montée de la pandémie qui peut provoquer la saturation des capacités hospitalières et donc qui justifie les mesures de restriction.
Vous êtes un peu dans un en même temps. Il ne faut pas reconfiner et en même temps, j'entends la souffrance du personnel hospitalier. Et là, on se dit, c'est quoi la solution? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une sorte d'en même temps ambigu.
Non, c'est
la priorité.
C'est un certain nombre. Mesures de restriction proportionnées qui permettent de maintenir l'épidémie à un niveau qui ne saturera pas l'hôpital public et qui ne mettra pas en danger des milliers de vies. Voilà.
Bon, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Valérie Pécresse. On parlera notamment, bien sûr, d'islamo-gauchisme et de lutte des jeunes, de décès des jeunes dans des rixes entre bancs. À tout de suite.
Il y a l'énergie que l'on aime dépenser sans compter et l'énergie que l'on aimerait bien économiser. Grâce à Elio, concrétiser votre projet de rénovation énergétique est un jeu d'enfant. Isolation, changement de chaudière, des travaux ou démarches administratives, Elio vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet et vous avance même le montant des aides auxquelles vous avez droit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur helio.com, HE2LIO, ou appelez le 3220 et dites Helio. Service gratuit plus prix d'un appel. Conditions d'éligibilité et de ressources sur helio.com.
Bien, sortez une feuille et un stylo, interro surprise de Géo. Placez sur cette carte de France les villes couvertes par la 5G de Free. Voilà, vous avez 10 heures.
Nice, Toulouse, Marseille, Cannes, Besançon, Lyon, Antibes, Bayonne, Niort, Angoulême. La 5G Free, c'est le plus grand réseau mobile 5G de France en nombre de sites. Voir Observatoire 5G Arcep du 16 décembre 2020 sur arcep.fr. 5G en cours de déploiement. Rendez-vous sur mobile.free.fr.
Bonjour, c'est de nouveau le frère Yves Combeau. Si le jour du Seigneur existe depuis 70 ans, c'est aussi grâce à votre soutien. Aidez-nous à continuer en faisant un leg. Cela veut dire que le jour où vous ne serez plus là, votre patrimoine peut aller au jour du Seigneur. Il restera quelque chose au-delà de vous qui permettra à d'autres de garder un lien avec l'Église.
Renseignez-vous sur le leg auprès de Marie-Laure, le jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron,
On est dans les choux, c'est ça?
Ah bah dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et dès demain, le chou-fleur est à 1,29€ la pièce.
Non.
Ah si patron, 1,29€ la pièce. Et origine France en plus, hein. Ah, le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire.
Mais ça te fait rien. Les soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues.
Ah bah oui, pas de soucis, patron, j'arrête.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
RTL, il est 12h30. Nous retrouvons Benjamin Boucriche pour les informations. Bonjour Benjamin.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Valérie Pécresse demande aux entreprises franciliennes de développer le travail à distance. Il faut que les entreprises reviennent au maximum au télétravail. Ce qui me fait demander cela, c'est le risque de contamination lors des repas, pas dans les transports. Déclaration de la présidente de la région Île-de-France, invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Les berges de la Garonne à Toulouse sont en partie fermées. Décision de la préfecture qui s'applique à partir d'aujourd'hui et jusqu'au lundi 8 mars, dans 10 jours. Elle considère que de nombreux rassemblements sans respect de la distanciation physique ont été constatés ces derniers jours. Pour vaincre cette épidémie, le maire de Marseille demande à Emmanuel Macron de tordre le bras des laboratoires. Benoît Payan le dit à nos confrères du journal du dimanche. Je demande au chef de l'État de mettre le paquet, poursuit cet élu socialiste, qui se dit même prêt à ouvrir le stade Vélodrome pour vacciner. À Bondy, les deux frères suspectés d'avoir tué par balle un garçon de 15 ans sont en garde à vue jusqu'à demain matin. C'est ce qu'indique le parquet de Bobigny. Ces deux hommes âgés de 17 et de 27 ans étaient en conflit depuis un an avec la victime. Pour l'instant, on ne connaît toujours pas la raison de ce différend. C'est un carton rouge adressé au gouvernement. La Convention citoyenne pour le climat se réunit aujourd'hui pour la dernière fois. Elle doit adresser à l'exécutif une note de 0 à 10 pour évaluer la réponse politique apportée aux 146 propositions. Et le gouvernement n'a la moyenne nulle part. Sa meilleure note, 4,1 sur 10. En football, joli programme pour la suite de la 27e journée de Ligue 1 cet après-midi. 7 rencontres à suivre de 13h à 21h. Dans 30 minutes, Monaco reçoit Brest à Louis II. Match à suivre chaque heure en fil rouge sur RTL. Ce soir, c'est le choc des Olympiques entre Marseille et Lyon. Coup d'envoi 21h. Le bateau d'Alexia Barrier vient de franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe. La skipper de 41 ans aura fait le tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale en 111 jours. Je retiens que rien n'est impossible. À force de volonté, de travailler, d'optimisme, on peut relever tous les défis, a souri cette skipper en posant le pied à terre au Sable d'Olonne. La météo, beau soleil, mais température bien fraîche cet après-midi. Prévoyez 9 degrés à Cherbourg, 11 à Paris, 12 à Lyon, 15 à Bordeaux. Il fera jusqu'à 17 degrés à Nice. Les courses, départ à Vincennes, 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 15, le 6, le 13, le 9, le 14, le 3, le 8 et sa dernière minute, le 9. Vous écoutez RTL, il est midi et 33 minutes. Tout de suite, la suite du grand jury de Benjamin Sportouche.
Bonjour, c'est Éric Brunet.
Où va la France?
Je vous retrouve tout à l'heure à partir de 13h pour Où va la France? Une heure d'analyse approfondie sur les sujets qui bousculent notre vie, notre quotidien. Où va la France? C'est votre rendez-vous dominical pour prendre le temps de revenir sur l'actualité de la semaine. Accompagné de mes invités, nous démêlerons le vrai du faux pour y voir plus clair et surtout pour comprendre où va la France. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 13h sur RTL.
Où va la France? Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Gindre de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro qui réagit à cette première partie d'émission et qui a une question pour vous, Guillaume.
Oui, vous avez délivré un satisfecit global au gouvernement pour sa gestion de la crise sanitaire dans la première partie de l'émission. Alors, est-ce qu'on peut en faire une lecture politique? Est-ce que ça veut dire que Valérie Pécresse n'est pas ou n'est plus dans l'opposition à Emmanuel Macron?
Ça veut dire que Valérie Pécresse est une femme libre et que quand elle trouve que ça va plutôt dans la bonne direction, elle le dit. Quand elle trouve que ça va plutôt pas bien, elle le dit aussi. Souvenez-vous des couacs du début de la stratégie vaccinale. J'ai dit que c'était le bazar. C'était le bazar. Je me suis fait l'écho de tous les élus qui le ressentaient. Et pourquoi c'était le bazar? Parce que le gouvernement avait choisi de traiter les régions non pas en partenaires, mais en adversaires, et avait refusé d'élaborer cette stratégie vaccinale avec nous. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a transféré le fardeau des vaccins aux maires du jour au lendemain. Les mairies étaient complètement débordées, n'avaient pas les moyens. Et qu'est-ce que nous avons fait, nous, les présidents de région? Nous sommes venus les aider. J'étais obligée de mettre en place un fonds vaccinal de 10 000 euros par commune pour leur permettre de s'approvisionner dans tout ce qui leur manquait. Donc voilà, quand ça marche pas, je le dis. Quand ça marche, je le dis.
Mais on se dit que Valérie Pécresse à Matignon aujourd'hui, ben, ça serait pas une absurdité de travailler avec Emmanuel Macron, très franchement.
Aujourd'hui, il y a des sujets sur lesquels je veux faire entendre ma voix. Et je crois que ma voix est singulière. Vous parliez tout à l'heure des violences qui ont lieu aujourd'hui entre bandes de jeunes et singulièrement dans la région Île-de-France, puisque le phénomène est très francilien, a dit le ministre de l'Intérieur.
Ce qu'il y a eu, on le rappelle, deux jeunes qui sont morts dans des affrontements entre bandes cette semaine et un troisième qui a été tué par balle à Bondy vendredi.
Absolument. Nous avons 70 bandes de jeunes qui sont identifiées par le ministère de l'Intérieur comme étant potentiellement dangereuses. Alors ce phénomène, ça fait des années que j'alerte dessus. Ça fait des années que j'alerte dessus, parce que c'est pas du tout un phénomène nouveau, c'est un phénomène c'est ce que j'appelle les nouveaux barbares. Ce sont des jeunes qui se mettent en bande, soit pour s'agresser mutuellement dans des logiques de territoire, mais, et c'est plus grave, aussi pour attaquer les institutions. C'est les mêmes bandes qui attaquent les policiers, les pompiers, les médecins, qui leur tendent
des guet-apens
et qui les prennent en tenaille.
Mais là, justement, Gérald Darmanin vous dit on va réactiver le plan de lutte anti-bandes. Donc c'est qu'il a entendu cette situation et qu'il y répond, non?
Et il veut un diagnostic, je précise, par département qu'on devrait lui remettre le 10 avril.
Le diagnostic, tout le monde le connaît. Pardon de le dire, mais la chaîne de sécurité dans notre pays doit être renforcée dans tous ses maillons. Nous, à la région de France, nous avons créé des brigades régionales de sécurité. Des brigades régionales de sécurité, c'est-à-dire des brigades de 5 personnes spécialement formées à la médiation en milieu scolaire, qui sont souvent des anciens policiers, des anciens gendarmes, des anciens policiers municipaux, et qui se déplacent dans les lycées pour ramener le calme. Est-ce que vous savez qu'ils ont fait 400 interventions depuis septembre? 400 interventions des brigades régionales de sécurité dans les lycées. Donc ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il faudrait mettre des brigades de sécurité, vraisemblablement aujourd'hui, aussi dans les collèges d'Île-de-France. Donc le diagnostic, il existe. Il faut renforcer tous les maillons de la chaîne de sécurité. Ces maillons, c'est la police nationale, bien sûr, mais c'est aussi les polices municipales. Je plaide, là encore depuis des années, pour la généralisation, l'obligation d'avoir des polices municipales dans les villes de plus de 10 000 habitants.
Armées.
Et de préférence, alors ça dépend de la situation du territoire. L'Île-de-France est la région la plus criminogène de France. en Ile-de-France, si votre police municipale n'est pas armée, elle est beaucoup moins attractive. Vous avez du mal à recruter. L'autre jour, j'étais à Sevran, en Seine-Saint-Denis, au chevet d'un certain nombre d'habitants d'un nouveau quartier qui vient de sortir de terre et qui était pris à partie par les dealers qui voulaient investir le quartier.
Et les parents,
eh bien, à Sevran, le maire n'arrive pas à recruter des policiers municipaux parce que il refuse l'armement de ces policiers. Et tant qu'on ne les armera pas, comme à Aulnay, juste à côté, ils sont armés, à Villepinte, ils sont armés, eh bien évidemment, les policiers ne viennent pas parce que la situation est trop dangereuse. Donc, police municipale obligatoire. Le deuxième sujet, c'est la vidéoprotection qu'il faut généraliser. Il y a encore des villes qui refusent par idéologie la vidéoprotection. Et sans vidéoprotection, c'est très difficile vis-à-vis de ce phénomène de bande de les prévoir et de lutter contre. Et troisième sujet, la réponse pénale. Et là, la réponse pénale, elle est défaillante. Il y a une nouvelle loi qui va arriver au Parlement. Mmh. Le gouvernement en attend beaucoup. Moi, j'espère qu'elle va...
C'est la réforme du code pénal des mineurs que la droite n'a jamais mis en œuvre. Depuis des années, on en parle. Il y a une réforme du code pénal des mineurs pour donner une sanction plus rapide. C'est ce que tout le monde demandait, ça va être le cas.
Pardon, la droite a fait plusieurs réformes de l'ordonnance de 45. C'est nous qui avons créé les centres éducatifs fermés il y a un certain nombre d'années. Et je vous assure que les sanctions étaient plus vigoureuses du temps de la droite sur la délinquance des mineurs.
Valérie Pécresse, aujourd'hui, il y a pas un quatrième sujet, pardon, parce qu'il faut qu'on avance, mais un quatrième sujet qui tourne autour des parents. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent qu'il faut supprimer certaines aides quand ils sont parents d'enfants délinquants?
Alors, sur la sanction pénale, il faut qu'elle soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. C'est franchement l'urgence. Mais évidemment, il faut aussi responsabiliser les parents. Un maire d'Île-de-France, Karl Olive, le maire de Poissy, ouais, a proposé, lorsque les familles sont visiblement défaillantes, de supprimer les aides facultatives à ces familles. Les aides aux vacances, les aides culturelles pour leurs enfants. Aujourd'hui, il faut que les droits s'accompagnent de devoirs.
Vous allez le faire? Est-ce que
les
vous
droits s'accompagnent de devoirs? La région ne donne pas d'aide régionale aux familles.
Donc vous allez demander.
La région ne donne pas d'aide facultative. La région ne donne que des aides à la cantine. Mmh. Et bien évidemment, on ne supprimera jamais les aides à la cantine aux enfants, y compris aux frères et sœurs d'enfants délinquants. Pas question de supprimer les aides à la cantine. Mais quand il y a des aides facultatives, moi je comprends la politique de ce maire qui est de dire droits et devoirs doivent aller ensemble. Mais ça évidemment, il faut le faire en prenant en compte aussi les situations de ces mères seules qui se retrouvent à élever leurs enfants et qui ne peuvent pas faire face.
Vous les appelez, et l'expression est forte, les nouveaux barbares, ces jeunes. C'est pas du tout l'état d'esprit de la justice des mineurs qui considère plutôt que ce sont des jeunes un peu paumés et que donc l'éducation doit être la priorité. Vous pensez qu'il faut complètement changer là, le regard qu'on a sur ces jeunes?
Pour moi, il faudrait séparer la justice des enfants, de l'aide sociale à l'enfance, de la justice des mineurs proprement dit. Ça n'est pas la même logique, même si ce sont parfois les mêmes jeunes dont on parle. Aujourd'hui, il faut vraiment redonner force à la loi. Il faut que des repères soient redonnés. Et il faut que les sanctions soient beaucoup plus rapides. On le sait, on met des mois avant de juger un mineur aujourd'hui. Et par ailleurs, on met ensuite des mois à exécuter la sanction. Les travaux d'intérêt généraux, qui sont pas pour des mineurs, qui sont pour des adultes, ou les mesures éducatives pour des mineurs, mettent des mois avant d'être exécutés. Or, des mois, quand vous avez 14, 15, 16 ans, mais c'est toute une vie. Donc, on doit avoir des réponses beaucoup plus rapides. Il faut se mettre dans cette logique-là. Et il faut aussi que les collectivités locales puissent être mises à contribution et être partenaires de l'exécution de ces sanctions.
Autre question, c'est sur puisque vous parlez des jeunes, c'est sur l'aide aux jeunes. On parle beaucoup actuellement du RSA jeunes. À Lyon, la métropole écologiste veut expérimenter un RSA pour les jeunes d'un montant de 300 à 400 euros. Elle serait destinée aux 18-25 ans en grande précarité. Est-ce que vous êtes prête, vous, à mettre la même chose en place? Est-ce que vous le souhaitez?
Il faut absolument s'occuper de ces jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont ni en formation ni en emploi. On a un taux de chômage des jeunes qui est de plus de 20% aujourd'hui en France. Donc oui, il faut s'en occuper et avoir des mesures efficaces. Moi, je suis totalement contre enfermer des jeunes de 18 à 25 ans dans l'assistanat. Je suis pour leur ouvrir la porte d'un travail, d'un emploi.
Il n'y a pas de travail en ce moment.
Mais bien sûr que si, il y en a. Le paradoxe de cette crise...
Il ne faut pas un RSA jeune temporaire.
Monsieur Sportouche, le paradoxe de cette crise, c'est qu'il y a à la fois des secteurs économiques qui sont à terre et des secteurs économiques qui recrutent massivement et qui sont en pénurie d'emplois. Donc ce que nous allons faire en Ile-de-France, c'est nous allons créer non pas le RSA jeune, mais le RJA, le revenu jeune actif, selon un principe: un jeune, une formation, un emploi. J'ai 6 secteurs aujourd'hui en Île-de-France qui recrutent massivement. Le numérique, la sécurité, l'agroalimentaire, l'industrie, la santé et le social, le bâtiment et la construction.
Et si on n'a aucune de ces 6 formations et qu'on n'a pas d'emploi...
Ce n'est pas 6 formations, c'est des dizaines de formations aux centaines de métiers de ces 6 secteurs.
Qu'est-ce que vous faites pour eux ?
Eh bien, je leur demande... Attendez, là, on n'est pas en train de parler d'étudiants, on est en train de parler de jeunes qui ne sont ni en formation, ni en emploi. Des jeunes qui, aujourd'hui, n'ont rien. Ce que je leur propose, c'est un revenu de 4 000 euros. Un revenu de 4 000 euros pour 6 mois de formation dans des métiers qui recrutent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jeune qui s'engagera dans ces formations, non seulement il sera rémunéré, mais en plus, il est sûr à la sortie, s'il a bien suivi son cursus et s'il fait la formation jusqu'au bout, de trouver un emploi. Ça, c'est une vraie réponse. Alors, nous allons ouvrir 45 000 formations vers ces métiers à l'emploi avec des embauches à la clé. Pourquoi on le fait, nous, les régions ? C'est parce qu'on est en prise totale en proximité avec les entreprises et leurs besoins.
Et ce sont ces mêmes jeunes qui auront des aides pour le permis de conduire, parce que vous aviez fait cette annonce il y a quelques semaines.
Alors, deuxième sujet, nous avons un frein très fort aujourd'hui à l'employabilité des jeunes en Île-de-France, qui est le coût du permis de conduire. Le permis de conduire, non seulement c'est trop difficile, ça fait là aussi des années que je demande qu'on simplifie le passage du code, par exemple,
qui est vraiment très
difficile. L'examen qui est très difficile, moi je trouve qu'il est trop difficile. Je suis sûre que si vous repassiez votre code, aucun d'entre vous ne l'aurait, mais vous conduisez quand même. Donc ça veut dire qu'il faudrait, me semble-t-il, avec les associations de sécurité routière, qu'on fasse un travail pour essayer de rendre le code plus accessible, parce que c'est très humiliant de rater son code. Mais au-delà du code, je pense qu'il y a un coût global du permis qui est trop élevé, et donc nous allons, à partir de cette semaine, mettre en place la gratuité totale du permis de conduire pour les jeunes qui sont en insertion, en école de la deuxième chance, pour les jeunes qui sont en quartier politique de la ville, en territoire ruraux.
Ça concerne combien de jeunes, Valérie Pécresse ?
Ça concerne potentiellement 60 000 jeunes en Île-de-France qui sont aujourd'hui, là encore, sans emploi, sans formation, qui sont dans des territoires dans lesquels on a besoin d'avoir le permis de conduire pour pouvoir aller travailler.
Et le RJA, ça sera à partir de quand et ça concerne.
Alors, le RJA, le revenu jeunes actifs, ça devrait concerner, d'ici la fin de l'année, potentiellement 100 000 jeunes en Île-de-France. Mais dès cette semaine, 45 000 formations sont ouvertes, dont 10 000 en e-learning, qui permettent de le faire, y compris à distance. Je pense toujours aux jeunes qui sont dans les territoires ruraux ou dans les quartiers de politique de la ville qui sont aujourd'hui isolés et qui n'ont pas forcément la formation près de chez eux.
Et concrètement, si on est intéressé par cette offre, comment est-ce qu'on fait ?
On va sur le site de la région Île-de-France.
Bon, d'ailleurs, écoutez, on essaiera ça, ou c'est à partir de demain ?
Guillaume est candidat.
À partir de demain. Alors, sur le permis de conduire, on a en fait fait une expérimentation. Pardon, sur le permis de conduire, on a fait une expérimentation depuis décembre dans le Val d'Oise, qui est un département dans lequel, vous le savez, peut-être, on a peu de transports en commun. Et donc, c'était vraiment demandé par les jeunes du Val d'Oise. Et c'est avec eux qu'on a co-construit ce programme.
Valérie Pécresse, il y a un sujet qui concerne notamment les jeunes, c'est le cannabis. Il y a actuellement une consultation publique sur l'usage du cannabis à l'Assemblée nationale. Écoutez cette question en plus de Tess Nedam.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour, ici Tess Nedam, responsable média Normal France, une association qui lutte pour la réforme des lois sur le cannabis. Madame Pécresse, au regard de ce qu'il se passe dans les pays étrangers ayant régulé le cannabis, c'est-à-dire la baisse de la criminalité, la baisse de la consommation chez les jeunes, une meilleure prévention et sans parler des retombées économiques, en quoi les nouvelles mesures de répression seront-elles plus efficaces pour protéger les Français, notamment les plus jeunes ? Merci.
Valérie Pécresse, j'ajoute que Robin Reda, qui fait partie de votre mouvement libre, qui est un député Les Républicains de l'Essonne, est pour une légalisation contrôlée du cannabis. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Et du coup, ça répondra à la question de Tess Nedam.
Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que la légalisation du cannabis diminuera les trafics. Et je pense que cette légalisation du cannabis peut avoir un impact extrêmement néfaste sur la santé des jeunes. Et s'agissant de la consommation de drogue, mon vrai souci, c'est le décrochage. C'est le décrochage scolaire qui suit la consommation de drogue dans les familles et qui plonge les familles dans la détresse. Pourquoi je pense que
donc
ça n'aura pas...
Donc si vous êtes candidate à l'Élysée, vous ne ferez pas la promotion de la légalisation du cannabis.
En tout cas, en tant que présidente de région, ce ne sera jamais une proposition que je porterai parce que j'ai été ministre du budget, j'ai été la ministre de tutelle des buralistes. Et c'est intéressant parce que c'est une expérience qui m'a profondément marquée. Est-ce que vous savez quelle est la première contrebande en France ? aujourd'hui de produits.
Vous
première
contrebande, vous le dire.
Cigarette. Ça veut dire que, alors même que la cigarette est vendue dans les bureaux de tabac, le premier marché de contrebande aujourd'hui, c'est la contrebande de cigarettes. Ça veut donc dire que si on légalisait le cannabis, eh bien, on aurait à nouveau des trafics, qui amènerait à avoir des produits peut-être plus dosés, plus dosés en THC, donc plus nocifs pour la santé. Je ne pense pas qu'on mettrait fin au trafic avec
la
légalisation.
Est-ce que la répression, ça marche pas?
Bah, en tout cas, l'intérêt d'avoir une barrière d'interdit, c'est de réaffirmer que la drogue, c'est mauvais pour la santé. Et ça, à un moment donné, il faut quand même qu'on le dise, c'est mauvais pour la santé et que ça n'est pas bon, notamment pour les mineurs, d'en consommer.
Vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin. Autre polémique de la semaine qui a beaucoup fait parler, c'est l'islamo-gauchisme à l'université. Guillaume.
Oui, vous disiez que vous avez été ministre du budget, vous avez aussi été ministre de l'enseignement supérieur. L'islamo-gauchisme dans les universités, ça existait déjà quand vous étiez en charge de ce sujet?
Alors, ce qui existait quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur, c'était plutôt une importation du conflit israélo-palestinien au sein des débats universitaires. Mais j'ai été ministre des universités il y a plus de 10 ans. J'étais ministre des universités avant Mohamed Merah, les attentats de Toulouse, avant que les Français et les autorités françaises prennent conscience de ce qui était en train de se passer avec les réseaux islamistes qui essayaient de détruire le pays. Souvenez-vous, en 2011, je ne suis donc plus ministre de l'université. Quand Mohamed Merah commet ces attentats, on croit que c'est un loup solitaire. Ça veut dire qu'on n'a pas encore pris conscience de ce que les islamistes radicaux sont en train de mettre en place des réseaux pour détruire nos institutions et pour mener le djihad sur le territoire.
Et pour revenir à l'université, comment on fait pour lutter concrètement contre l'islamo-gauchisme ?
Alors aujourd'hui, l'islamo-gauchisme existe à l'université. C'est quoi l'islamo-gauchisme ? Parce qu'il faut expliquer de quoi on parle. C'est une pensée politique. Ce n'est pas un courant de recherche, c'est une pensée politique qui tente à minorer, voire même à nier la menace islamiste sur notre société, nos institutions, notre pays. Voilà. Et ça, ce qui est très grave, c'est que lorsque l'islamo-gauchiste est puissant, ce n'est pas le cas dans toutes les universités, mais c'est le cas dans certaines facs, eh bien, il conduit à faire annuler des colloques, à faire annuler des cours, à renoncer à financer des recherches. Bernard Rougier et Hugo Micheron, qui ont travaillé, et dont les travaux sont aujourd'hui font référence sur le djihadisme en France, sur les quartiers conquis par l'islamisme, ont financé la recherche grâce à des aides de la région Île-de-France. Parce que leur université n'acceptait pas de les financer.
Mais justement, les présidents d'université, ils sont plutôt peureux sur ce sujet. Ils n'ont pas envie de se fâcher avec leurs profs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, évidemment, l'indépendance des enseignants-chercheurs doit être un principe, une liberté publique reconnue par la loi. Mais il faudrait qu'on puisse avoir une possibilité de signaler lorsque, par exemple, il y a une pression qui se fait pour interdire un cours. Je vous donne un exemple.
Un numéro vert pour les profs de l'université ?
Au moins qu'ils puissent se signaler à leur ministère. Moi, j'ai encore un autre exemple, mais Mohamed Moussaoui devait, qui est un grand spécialiste de la radicalisation, devait faire des cours aux imams de la Grande Mosquée de Paris, dans une grande université, dans une grande université parisienne, sur les valeurs de la République, la laïcité. Eh bien, ces cours ont été interdits, enfin, n'ont pas pu avoir lieu sous la pression d'un certain nombre de profs.
Vous êtes d'accord avec Frédérique Vidal, vous soutenez la ministre.
Elle a
pointé. Qui a un peu rétropédalé en début de semaine sur RTL.
Frédérique Vidal a pointé un vrai problème. Maintenant, moi, je n'aurais sans doute pas fait comme elle, j'aurais saisi le Haut Conseil d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a un haut conseil d'évaluation qui évalue la qualité des recherches et qui peut évaluer si des chercheurs, au lieu de faire de la recherche, j'allais dire selon les critères internationalement admis, font de la politique.
C'est dit. Question express.
Le grand jury. Question express.
Valérie Pécresse, pour ou contre les repas sans viande à la cantine ?
Moi, je ne mettrai pas de la...
C'est pour ou contre, hein.
Non, mais je ne mettrai pas de la politique dans les assiettes. Pardon, monsieur Sporty, je ne mettrai pas... Mais... Non, mais attendez, excusez-moi, je peux répondre en plus d'une demi-seconde. Mais nous avons, dans les cantines d'Île-de-France, de la diversité alimentaire, pour ceux, y compris pour ceux qui veulent des protéines végétales et pas animales.
Pour ou contre une réforme des retraites d'ici 2022 ?
D'ici 2022, ça paraît court pour convaincre les Français d'une réforme dont ils n'ont pas bien compris les contours aujourd'hui.
Pour ou contre ?
Mais en revanche, il faut la faire, la réforme des retraites. Mais pas forcément celle que veut le gouvernement. Surtout celle qui permettra de repousser l'âge de départ à la retraite et d'équilibrer le régime.
Pour ou contre l'annulation de la dette liée au Covid ?
C'est à l'heure. Elle ne sera pas annulée, cette dette. Cette dette, elle va continuer à peser sur les générations futures et il faut s'organiser pour voir comment est-ce qu'on peut la rembourser.
Pour ou contre une dose de proportionnelle aux prochaines législatives ?
Alors, contre la proportionnelle intégrale, absolument, parce que la proportionnelle intégrale, c'est ce qu'il y avait dans les régions et ce qui a conduit à les rendre ingouvernables par le passé. Une dose, absolument, pourquoi pas,
mais je ne pense pas
qu'on arrive à faire une dose de proportionnelle d'ici 2022, parce qu'il faudrait redécouper les circonscriptions.
Pour ou contre le vote par correspondance aux prochaines régionales ? Le vote par correspondance.
Bon, c'est beaucoup trop tard pour organiser un vote par correspondance. J'ajoute que Jean-Louis Debré a très bien dit que dans une élection à deux tours, où il n'y a qu'une semaine entre le premier et le deuxième tour, on aura du mal à voter par correspondance entre les deux tours.
Pour ou contre, enfin, une candidature de Nicolas Sarkozy à la présidentielle en 2022 ?
Ça ne dépendra pas de moi. Donc il faudra lui poser la question.
Ça dépendra peut-être en partie de la justice, Valérie Pécresse. Demain, le jugement de Nicolas Sarkozy est attendu dans l'affaire dite des écoutes. Quand vous verrez le jugement, s'il est synonyme de condamnation, est-ce que vous direz la justice a fait son travail ou est-ce qu'on est face à une justice politique dans ce cas, selon vous ?
Moi, je le crois innocent. Donc je verrai le jugement tel qu'il sera rendu. Je respecte la justice de mon pays, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ces affaires.
Et vous les expliquez par une orientation politique ou un parti pris politique de la part de certains magistrats ?
J'ai été favorable à la création du parquet national financier au moment où il a été créé parce que je pensais qu'on avait besoin dans notre pays d'une justice qui soit professionnelle pour traiter de ces cas de corruption qui sont des cas évidemment qui gangrènent la démocratie. Aujourd'hui, je me demande si cet entre-soi du parquet national financier n'est pas en train de créer finalement un enfermement qui se traduit par une forme d'acharnement judiciaire.
Faut-il dissoudre ?
En tout cas, il faudra évaluer vraiment son action et regarder cela de manière très attentive. Mais c'est une vraie question.
C'est une vraie question, la question du PNF. Ça, c'est dit. On est à 10 jours de la journée des femmes, Valérie Pécresse. Un sondage du JDD de ce matin montre que, pour les Français, il y a toujours une forte inégalité entre les genres, notamment au travail. Est-ce qu'en politique, ça a changé ? Est-ce qu'une femme pourrait être présidente aujourd'hui, en 2022 ?
En tout cas, je pense que les Français, eux, n'y verraient pas d'objection. Parce qu'ils ont déjà dit à nombreuses reprises, et ils l'ont prouvé en élisant des femmes dans un certain nombre de postes à responsabilité, qu'ils faisaient confiance aux femmes pour diriger des grandes collectivités.
Que ça pourrait être vous ?
Aujourd'hui, le sujet pour moi est vraiment d'être dans l'action. Je ne suis pas venue parler d'élection. Je ne suis pas venue parler d'élection parce que...
Tout le monde dit vous voulez participer au débat, je participe au débat. Est-ce que vous voulez participer au débat pour 2022, c'est ça, là, à ce stade ?
Ah ben, je suis une femme libre, je suis la présidente de la première région d'Europe et bien évidemment, je ferai entendre ma voix dans les futures élections et je dirai ce que je pense de l'état du pays parce que la démocratie aujourd'hui française, elle est menacée. Elle est menacée d'un côté par ceux qui les tenants de la désobéissance civile et de la chienlit. Elle est menacée aussi par les extrêmes qui veulent une démocratie et veulent nous priver de nos libertés. Et puis, elle est menacée aussi par l'islamisme radical.
C'est déjà une ébauche d'un programme. Question nette.
Le grand jury. Question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Valérie Pécresse. Vous avez déclaré en début d'émission qu'il faut changer les critères de vaccination. Et donc, les internautes veulent savoir si vous êtes favorable à la vaccination dès à présent des étudiants.
Vraiment, sur ces questions de vaccination, il faut avoir des principes très très clairs. Le principe clair, c'est d'abord les personnes les plus à risque. Les personnes les plus à risque, aujourd'hui, ce sont les personnes âgées et ce sont les personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités. Donc c'est les plus de 50 ans. La moyenne d'âge aujourd'hui à l'hôpital, elle est au-dessus de 50 ans. Donc ma réponse, c'est non.
Autre sujet, il y a un député de La République En Marche qui veut interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs. Donc ça veut dire utiliser en permanence le féminin et le masculin à l'écrit. Vous, député, est-ce que vous auriez voté cette proposition de loi ?
J'ai fait même pire. J'ai supprimé l'écriture inclusive à la région Île-de-France. Parce que mon prédécesseur avait instauré l'écriture inclusive obligatoire dans tous les documents de la région. Et quand je suis arrivée, je l'ai supprimée.
Ça ne vous dérange pas que...
Non, mais attendez, ça me dérange profondément qu'on détourne la langue française, qui est une langue, déjà, une langue difficile. Et je pense que cette écriture inclusive, finalement, avec des bonnes intentions sans doute, elle est en train, elle rend beaucoup plus difficile l'acquisition du français pour beaucoup de jeunes, et donc je suis contre.
Autre question.
Oui, le porte-parole du gouvernement a lancé cette semaine, Gabriel Attal, son émission sur les réseaux sociaux. Ça a été vraiment très critiqué par les internautes qui y voient un coup de communication, même du clientélisme. Est-ce que vous, vous excluez d'avoir recours à ce type de méthode sur les réseaux sociaux pour vos électeurs et même pour vos campagnes ?
Qu'on puisse avoir recours à des relais d'influence pour porter la parole politique, ça n'est pas en soi répréhensible. Nous, nous avons utilisé à la région Île-de-France un certain nombre d'influenceurs. Je pense par exemple pour faire des campagnes de prévention contre le sida, des campagnes de prévention avec des sur la contraception. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est que la pipolisation ne doit pas remplacer la politique. Enfin, la politique, c'est s'adresser à tous les Français, c'est pas seulement s'adresser à quelques people.
Merci beaucoup Valérie Pécresse, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.